Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité est un jeune écrivain britannique, Max Porter, dont le premier roman vient d'être traduit en français sous le titre « La douleur porte un costume de plume » aux éditions du Seuil. Un titre très poétique et un récit poignant, en même temps baroque, d'un homme dont l'épouse vient de décéder brutalement et qui se retrouve seul à affronter son chagrin avec ses deux jeunes fils. Sauf que la singularité de ce livre, c'est qu'un corbeau s'invite dans leur foyer et dans la narration. Et ainsi, ce sont trois voix qui s'expriment à tour de rôle, le père, l'oiseau et les enfants. Il y a de très nombreuses références littéraires dans ce texte. Emily Dickinson, Ted Hughes, voire Agatha Christie, ce qui est peu étonnant puisque l'auteur est aussi éditeur dans l'une des plus prestigieuses maisons londoniennes. Avec Max Porter, c'est donc une nouvelle voix stylistique qui vient de naître et que je vous propose tout de suite de découvrir. Rencontre. Bonjour Max Porter.
Bonjour.
Comment se fait-il que pour votre première fiction, vous, l'éditeur sans doute comblé de la célèbre maison britannique Granta, et l'homme jeune que vous êtes, 34 ans, marié avec trois enfants, ayez choisi d'aborder la question douloureuse du deuil?
It's preoccupied me for many years.
Eh bien, cette question me préoccupe depuis des années, en fait. Déjà, enfant, j'ai perdu mon père très jeune et j'étais très proche de mon frère, justement. Donc, pendant des années, je me suis intéressé à la façon dont les frères se racontent des histoires, manipulent le récit, à tour de rôle, racontent, se rappellent, oublient des histoires, notamment lorsqu'il y a ce vide qui se crée dans la famille. Alors, évidemment, mes circonstances personnelles sont différentes de celles des enfants, des garçons de l'histoire, parce que moi, j'ai eu un beau-père, etc. Or, justement, le chagrin, la douleur, pourquoi l'aborder? Parce que lorsque l'on parle de douleur, cela paraît souvent une écriture cliché, un petit peu trop habituelle, et pourtant je me suis dit que cette notion de tourner la page, de passer à autre chose, je trouve cette notion extrêmement repoussante en fait, et j'ai voulu remettre toute cette question en cause et revenir dans la vie des gens pour justement tordre le cou à cette notion de tourner la page et aborder la douleur pour ce qu'elle est. Et puis je voulais également créer une forme littéraire, parce que moi je lis des centaines de romans par an, je me suis demandé, serait-il possible de créer une forme littéraire qui puisse justement traiter cette question de la douleur, qui est une chose extrêmement chaotique, qui ne suit pas des règles ordinaires. Un roman normal, 300 pages de prose, c'est pas le format qu'il fallait pour ce sujet.
Beaucoup de préoccupations personnelles, donc des enjeux littéraires importants, et on va en reparler. Mais ici, c'est quand même une fiction, puisque il s'agit d'un écrivain et non d'un éditeur comme vous, qui devient veuf, qui croule à la fois sous son propre chagrin ainsi que celui de ses enfants, et là, arrive dans sa vie, dans son appartement, comme dans un récit fantastique, un corbeau. Et cette bête étrange parle mieux. Elle se présente comme médecin ou fantôme, si on veut, et à sa façon va accompagner cette famille orpheline à traverser cette épreuve du deuil. Outre le côté surréaliste, c'est très surprenant que vous ayez choisi comme métaphore animale un corbeau dont l'image est habituellement sinistre et associée à la mort, alors qu'ici, au contraire, vous avez voulu renverser presque le mythe de la malédiction. Je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est en hommage littéraire au grand poète Ted Hughes, qui a écrit un livre intitulé Corbeau en 1970, ou Edgar Allan Poe, écrivain américain, aussi l'auteur d'un poème nommé Le Corbeau, voire Emily Dickinson, dont on peut lire un texte en exergue ici, poétesse américaine dont une partie de l'œuvre est fascinée par le macabre, ou tout simplement Max Porter, parce que vous êtes un fervent partisan des corbeaux et que vous trouvez trop maltraités dans la vie et dans les livres.
C'est une grande question.
C'est un peu tout cela, tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que le dispositif littéraire du corbeau était attrayant pour Poe aussi bien que pour Ted Hughes. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'était une créature de la mythologie, mais également dans la littérature plus ancienne et même à travers le monde, dans la littérature celte ou même japonaise, on retrouve cet oiseau qui incarne toutes sortes de choses. Et donc je me suis dit, si en plus de cela, cette créature mythologique devient une créature littéraire, et que se passerait-il lorsque les obsessions littéraires d'un homme sont mises en scène? Et moi, je suis toujours au contact de ces obsessions, parce que à travers les textes, on découvre les obsessions des uns et des autres. Et voilà, si tout cela prenait forme à travers ce chaos et dissolvait les frontières. Donc effectivement, entre Dickinson, Ted Hughes, Max Porter, toutes les frontières disparaissent et, disons, par ce prestidigitateur qu'est le corbeau, sont remises à plat. Alors je voulais que le récit soit quand même amusant, parce que, après tout, de même que Samuel Beckett, si ça n'est pas drôle, il n'y a rien. Et justement, disons que cette apparition du corbeau crée des situations. Donc le corbeau s'occupe, soigne les gens, mais un de ses instruments à son arsenal, c'est l'horreur. Donc il se sert justement pour traiter le traumatisme, l'humour noir, le sarcasme ou même la scatologie. Donc c'est un peu un autoportrait, un miroir, mais également une façon, un exemple de la façon dont on peut lire, dont on peut vivre. Mais enfin, je me suis dit, au lieu que ce soit un personnage imaginaire, quid si ce serait un vrai personnage que le lecteur peut voir, que les enfants peuvent voir? Et pour le lecteur, justement, on se dit finalement, tout le monde, chacun, est un corbeau. Et ce corbeau, c'est vos frères et sœurs, c'est votre maison, c'est votre perte, c'est votre douleur. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de blanc dans le livre, pour que le lecteur puisse y trouver sa propre place et y mettre ses récits, ses souvenirs à lui. Mais c'est surtout Emily Dickinson qui est probablement celle qui m'a donné la licence d'écrire ainsi, la façon dont elle applique un intellect rigoureux à des processus complètement fantaisistes pour examiner des états affectifs que sont la terreur, la crainte, la dépression, la jouissance, l'extase. Enfin, ça, c'est ce qui m'a, disons, animé, ce qui m'a vraiment intéressé en tant qu'auteur, d'où ce titre qui est un hommage, évidemment, à elle.
C'est un corbeau très libre, qui s'exprime sans vernis social, avec des expressions directes. Est-ce que ça vous a amusé, Max Porter, d'écrire avec ce ton impertinent ?
Je me suis dit que il fallait donner la place à ce genre de choses, c'est-à-dire créer un véritable plaisir à faire cohabiter le cérébral et, disons, l'ignoble, à la limite. Et entre les deux, on trouve peut-être un message destiné aux garçons et à leur père. Mais je voulais mêler un peu ces genres. Mais écrire ce personnage était très, très amusant, très agréable, parce que, justement, je joue avec la langue. Je veux que son langage soit celui d'un oiseau. Alors, le vrai challenge pour l'écrivain, c'est de se retrousser les manches et vraiment décrire la douleur. Et on voit qu'on ne peut plus s'accrocher à rien, à aucune référence, aucune comparaison. Et c'est ça que je voulais faire. Enfin, je voulais dire, voilà, je peux vous présenter ce titre, je peux vous amuser, je peux détruire ce mythe et le reconstruire, mais c'est à vous, les garçons, qu'il revient de regarder cette chose en face et de la décrire à vos propres yeux en entrant à l'intérieur de cette chose.
Garçon s'exprime, on ne sait jamais lequel des deux parle, puisque c'est une voix unique. Ça m'a rappelé une romancière, je ne sais pas si vous l'avez déjà lue, Agota Christophe, cette romancière hongroise qui a publié cette trilogie absolument remarquable, dont le premier volume s'intitulait Le Grand Cahier, où il était question de deux jumeaux. Là, c'est pas le cas. Mais on ne savait pas qui était qui, et finalement, au terme du troisième volet, on se rend compte que ces deux ne font qu'un. Est-ce que ça peut être une des lectures que vous avez pu avoir?
Absolutely. I'm so pleased you mentioned that book.
Je suis ravi que vous fassiez référence à cet auteur, parce qu'il y a deux livres que j'ai lus après avoir écrit celui-ci, et justement, il y avait deux livres que, si je les avais lus avant, j'aurais écrit différemment. Un livre de Dennis Reilly sur la douleur, et ce livre de Agota Christophe. Et si j'avais lu ces deux livres avant d'écrire le mien, j'aurais pas osé écrire mon roman. Mais vous parlez de ces jumeaux, et c'est vrai que ce livre auquel vous cette référence est tout à fait remarquable. Je suis ravi que vous en parliez. Effectivement, on dit que ces deux frères sont frères l'un de l'autre, comme s'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est une relation de symbiose, mais le fait d'être frère est presque une action plutôt qu'un état. On porte le costume de frère, on porte ce costume, c'est-à-dire que si on a conscience de sa relation de fratrie, d'amour, de haine, que sais-je, c'est une relation que l'on interroge pour savoir ce qu'elle veut dire. Mon propre frère, par nous prenions le rôle l'un de l'autre. Donc, mon père a disparu, j'étais malheureux, et mon frère me disait alors, mais non, faut tourner la page, pourquoi penses-tu à ton père? Et il m'invitait à tourner la page, et puis ensuite, c'était l'inverse, c'était lui qui pleurait l'absence de son père. Donc, les raisons ne sont pas les mêmes entre les deux frères pour se tourner sur le passé. Mes propres raisons sont quelquefois celles qui m'ont permis ensuite de tourner la page, et vice-versa. Et ce dialogue-là, je trouve intéressant. Mais dans l'écriture du roman, bon, il faut se dire qu'il y a des histoires imaginaires. L'histoire du poisson noyé, c'est une vraie histoire. Et nous avions des remords épouvantables après cet épisode, parce que nous avons vu qu'en tant qu'être humain, nous avions la capacité de nous servir de notre intellect pour tuer d'autres espèces. Mais je lui ai dit, c'est toi qui as jeté la pierre pour tuer. Et il me disait, non, c'est toi. On se renvoyait la balle pour ainsi dire. Peu importe finalement qui a tué le poisson, on pourrait essayer de trancher et la faire devant les tribunaux, je pourrais l'appeler, voilà, ce serait un témoin dans un tribunal qui a lâché la pierre. En fait, nous avons tous les deux lâché la pierre parce que nous étions ensemble et nous étions l'un ou l'autre frère. Et là, j'ai une immense gratitude, justement, pour cette relation de fratrie si étroite. Et à son mariage, je me dis, c'est merveilleux que le témoin et le frère soient la même personne. Et là, effectivement, justement, en raison des circonstances de notre enfance, c'est cette proximité, puis l'éloignement à d'autres moments, a créé ce don extraordinaire qui est justement cette relation si intense, si fusionnelle. Alors mon frère est musicien, lui, sa forme d'art est souvent à la fois sombre et clair, et c'est un peu la même chose pour moi en tant qu'écrivain. Nous sommes préoccupés par les deux aspects. Et est-ce que ce livre est un hommage à notre père disparu? Tout dans ce livre est inachevé, inabouti, et je crois que l'un et l'autre, nous ressentons le fait que la vie de mon père a été interrompue brusquement. Il n'a pas pu être un parent jusqu'au bout. Nous avons eu des enfants tous les deux très jeunes, peut-être pour reprendre le flambeau, pour reprendre le travail de mon père.
Donc on l'a compris, Max Porter, il y a un enjeu littéraire, un défi dans ce livre à plein d'égards. Vous renversez les clichés, vous faites bouger les lignes, vous mêlez les gens. On est dans la nouvelle, le poème, la fable, vous entrechoquez. C'est l'écriture aussi comme une expérience artistique, finalement.
I hope so.
Et c'est ce que j'espère, précisément. C'est ce que je voudrais, parce que j'étais adolescent, je voyais toujours une tension entre l'écriture, la musique et l'art graphique, et si je faisais l'un, je ne pouvais pas faire l'autre, les disciplines étaient incompatibles, mais je voyais qu'il y avait une relation triangulaire, ce n'était pas que l'un empêchait l'autre, et j'ai trouvé une grande satisfaction dans ce livre. Pourquoi? Parce que par moments, j'ai eu l'impression d'être en train d'écrire, de dessiner, plutôt qu'en train d'écrire. Il y avait cette symbiose artistique et j'ai pris quelques éléments que j'ai ensuite rassemblés comme un véritable collage. Je ne sais pas si vous connaissez les assemblages de Joseph Cornell, ce sont des espèces de boîtes. C'est ce que je fais que j'offre à mes auteurs en tant qu'éditeur. C'est des jouets qui sont construits à partir d'éléments comme ça ou des bouts de texte justement. Et c'est un petit peu ça, la démarche derrière ce livre. Autre analogie peut-être plus vivante, la cuisine. C'était comme si je cuisinais disons, une espèce de pot-au-feu. Et est-ce que je veux vraiment rassasier mes invités? Je rajoutais certains éléments, j'en ai enlevé d'autres, certains ingrédients. Ensuite, je vais partager avec les invités, en me rendant compte que chacun ne goûtait pas la même chose. Donc, il y avait également cette analogie culinaire. Alors, on passe de la cuisine à la musique. Mais à la musique, quelquefois, la voix du corbeau est trop élevée, il fallait baisser le son. Et puis, il faut se rappeler qu'il y avait une harmonie musicale qui devait être là. Quelquefois, on entendait la mère dont la voix serait trop forte, il fallait laisser plus de place à son fantôme. Des moments où la voix des enfants devait être plus importante que celle du corbeau, ou inversement. Quelquefois, je parlais trop de la vie de mon père, donc ça, je l'ai un petit peu éclipsé. Et puis, à la fin, j'ai trouvé le juste équilibre en dire, voilà, c'est à moi que le livre parle. Et j'avais trouvé justement ce point d'équilibre. Alors, je ne sais pas si je pourrais écrire de la même façon, mais en tout cas, pour cette expérience littéraire-là, j'ai donné tout ce que j'avais. Je mettais les enfants au lit, l'épouse devant la télé, sorti l'ordinateur, et alors, j'avais pas Word, il fallait que je tape mon roman sur des Gmail, et pour cette approche, disons, fragmentaire, ça a marché, ça l'a fait, j'ai pu constituer cette œuvre qui est assez hybride. Alors, peut-être que pour un autre roman, je commencerai à la page 1 et je ferai tout normalement, mais là, effectivement, c'était une démarche absolument associée à cet ouvrage-là.
Pour finir, en français existe l'expression « tourner la page » pour dire « passer à autre chose ». Et ici, dans la traduction, le corbeau dit en effet au père « tourne la page », sous-entendu « oublie ton deuil ». Alors, je ne sais pas si on dit exactement la même chose en anglais, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de noter que c'est comme si la littérature, en l'occurrence ici, écrire un livre comme le fait le père, ou comme vous le faites vous aussi, Max Porter, ou même lire, puisqu'on fait aussi les mêmes gestes, on tourne la page quand on lit. Comme si c'était donc une passerelle pour nous extraire du chagrin, de la souffrance et du deuil. Le deuil reste, mais la souffrance peut-être s'envole avec le corbeau.
C'est une belle question.
C'est une belle question.
It's not for me to say.
Alors,
I think one has to make something
il ne m'appartient pas de répondre exactement à cela. Je crois que c'est à chaque personne de voir si justement la littérature permet de tourner la page. Moi, je vois dans cette page un anneau de Möbius, c'est-à-dire que on la parcourt et on revient à la case départ. C'est-à-dire que certes, le corbeau s'envole, mais quand vous vous retournez, il est derrière vous, à vous suivre. Et je crois que dans la lecture, aussi bien que dans l'écriture, il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas de A à B de façon linéaire. Surtout lorsque le point A, c'est un traumatisme, c'est une perte, c'est un deuil. Il y a toujours une façon de lier une douleur à une autre. Moi, je n'aime pas cette notion, disons, cette matérialisation de la douleur. C'est-à-dire que la culture va, disons, faire le deuil d'un événement et ensuite on tourne la page et c'est fini. Je crois que c'est inexact. C'est une façon de se voiler la face. On se dit, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et maintenant ensuite, on est contre les armes à feu mais on en vend d'autres à d'autres pays. Enfin, il y a une espèce d'hypocrisie, d'immoralité derrière tout ça. Non, je crois qu'il faut rester en face de ces responsabilités aussi bien émotionnelles que morales. Donc, tout ça pour dire que ce que fait ce livre, dans une certaine mesure, et on retrouve dans le passage dans le livre où il y a un cri qui ensuite, dans la même voix, dit merci. Je crois que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a conscience de sa propre douleur et gratitude envers les autres. Mais c'est vrai que l'écriture, pour moi, a été une espèce de catharsis. J'ai pu quand même décharger 20 ans de tristesse qui me tourmentait, tristesse liée à la perte de mon père, et j'ai reçu une lettre d'un ami de mon père qui m'a dit, voilà, j'étais le meilleur ami de votre père, il aurait adoré ce livre. Et là, à titre personnel, à titre privé, je me suis dit, bon, c'est effectivement un moment précieux pour moi en tant qu'auteur, j'ai pu faire quelque chose et je peux écrire des livres à d'autres sujets, ou non, je ne sais pas.
On espère que oui, vous allez continuer d'écrire des livres. Merci beaucoup, Max Porter.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre en français de ce roman traduit aux éditions du Seuil, « La douleur porte un costume de plume » dans une traduction de Charles Recourcet. Et merci beaucoup à Robert Wolfenstein qui a traduit vos propos tout au long de cette émission. Merci encore.
Merci.
Ces références sont à retrouver sur le site RFI.fr à la page émission Littérature sans frontières ainsi que sur les réseaux sociaux. Mémoire d'un continent.